Good Morning Business, le grand débat.
Le grand débat à 8h38, aujourd'hui avec Emmanuel Lechypre, avec Carole Jugelet-Wellin, CEO et fondatrice de June, et avec François Roudier, porte-parole de la plateforme automobile. On a des chiffres tout chauds, tout frais, qui nous sont sortis pour le mois de janvier. François Roudier, sur les immatriculations automobiles, plus 8. Faut s'en réjouir ou on attend la suite, on regarde pas vraiment.
On va s'en réjouir, parce qu'un plus dans l'automobile, c'est assez rare, donc on est quand même assez content. Bon, il faut rester prudent, c'est du pourcentage. Lorsqu'on voit le volume, bon, on avait un jour de plus, ce qui nous a permis de pas être négatif. C'est bien. Lorsque vous prenez le volume comparé aux années 2019-2020, on est quand même
encore
à moins 27%.
Ouais.
Donc on est toujours dans un marché qui souffre terriblement.
C'est le paradoxe de l'automobile, on en parlait tout à l'heure avec Laure, c'est que à la fois le marché est très en deçà de ce qu'il était avant la pandémie, en même temps les marges sont bien meilleures, les constructeurs automobiles ont une bien meilleure rentabilité qu'avant, ils font moins mais ils gagnent plus.
Oui, il y a tout ce qui s'était exprimé autour du pricing power, c'est-à-dire on arrête de faire des réductions et qui s'est vraiment appliqué chez tout le monde. C'était Stellantis qui l'a lancé avec Carlos Tavares, ça s'est appliqué chez tout le monde. Après, vous avez beaucoup moins de ventes aux professionnels où il y avait des gros rabais sur certains très gros volumes qui étaient vendus, donc c'est plus les particuliers qui, eux, payent
l'impôt. On peut le dire.
On peut le dire. Et puis, des particuliers qui veulent des véhicules plus chers, plus équipés. La valeur achetée du véhicule augmente parce que on veut plus de véhicules.
Donc il faut arrêter de regarder les volumes.
Parce qu'on n'a pas trop de choix non plus, François.
Alors, eh oui, mais elles sont plus équipées.
C'est vrai, comme si les gens véhicules... venaient réclamer des tas de sophistication incroyables avec des trucs dont on ne sait même pas à quoi ça sert. Non, on nous vend un peu de la technologie qu'on n'utilise pas, François.
Alors les clients de luxe et de catégorie assez supérieure aiment beaucoup genre de choses.
Bah oui, évidemment.
Et vous avez il y a Dacia sinon.
Oui. Sinon après vous voyez que le premier véhicule vendu le mois dernier, c'était la Dacia Sandero. Donc on arrive à équilibrer, mais enfin la Dacia Sandero de 2023, elle n'est pas au prix de la première Dacia Sandero.
Dacia
donc,
qui a plus de 50%, j'ai vu ce mois de janvier.
Oui, non, mais c'est un grand succès, ça fonctionne bien.
On rappelle cette petite enquête britannique où ils se sont amusés à voir finalement quels étaient les acheteurs de voitures les plus intelligents en fonction des marques. Ils faisaient des tests, etc.
Intelligent.
Et la marque qui est achetée par les gens les plus intelligents, c'est Skoda.
Ah ouais.
Et ouais.
Un rapport qualité-prix pas mauvais aussi.
Oui, les plus intelligents, ils achètent des voitures.
Qu'est-ce que c'est que cette étude? Oui.
C'est la marque low cost du groupe Volkswagen. Exactement. Comme Dacia l'est dans le groupe Renault.
L'électrification continue, hein. On est à plus de 20%.
Ça tient bien. Bon, on est quand même sur des pourcentages, mais sur des petits volumes. Donc, on espère qu'on va garder ces chiffres-là. Bon, on voit que là aussi, l'eau de gamme fonctionne. La Mégane électrique de Renault est bien partie. Et puis, 208 électrique fonctionne, ça fait du volume.
Alors, est-ce que c'est pas le champ du cygne? Parce que entre l'arrivée des Chinois sur l'électrique, notamment, on voit notamment ces Chinois qui rachètent des usines en Allemagne, et puis l'IRA américain, qui fait qu'on a plutôt envie, on était tout à l'heure avec le patron France de Kia, qui nous disait, je fabrique en Slovénie, en Slovaquie ou Slovénie, mais bon, c'est tellement intéressant d'aller fabriquer aux États-Unis qu'on se pose peut-être la question.
Alors l'IRA est un vrai sujet. Et au-delà de ça, c'est le comeback des États-Unis dans le monde automobile. Il y a 20 ans, les États-Unis disparaissaient quasiment dans le monde automobile. Et maintenant, on les revoit au premier plan. L'IRA, c'est un petit peu la touche finale à tout un système qui attire tout le monde dans l'automobile. Parce qu'il faut voir aussi que tout ce qui est logiciel est maîtrisé par les Américains. Alors certes, les Chinois essayent de suivre, mais enfin, les leaders, ce sont eux. Et on sait que 40% du prix d'une voiture, de la valeur d'une voiture dans le futur, ça va être le logiciel.
C'est-à-dire le logiciel Google ou Apple, quoi.
Le logiciel Google, Apple, et puis les Qualcomm, les Intel, ne sont pas français. Donc, là, vous avez en plus un effet terrible de réduction possible des coûts sur la fabrication. Regardez dans la chimie, c'est encore pire que dans l'automobile. Là, l'attrait est très, très fort.
Mais l'Europe ne va pas rester sans rien faire. On va avoir une réponse européenne. Emmanuel Lechypre, on était tout à l'heure avec une députée Renew. Je vous invite à réécouter l'interview de 8h15 en replay et en podcast. Elle parlait d'un fonds de 200 milliards en disant elle-même que ça ne serait pas suffisant. Mais on va passer en mode subvention d'État, changer complètement la manière de voir l'économie en Europe.
Déjà sur la voiture, ce qui est, enfin, je veux dire, là tout est résumé, c'est-à-dire en gros le moteur sera chinois et le logiciel sera américain. Voilà. Et puis voilà, donc c'est très bien.
Donc on est foutu, quoi.
Ah, sur l'industrie automobile, je pense que c'est fini. Oui, bien sûr que oui.
Ah, carrément.
Bien sûr que oui, il y a aucun avenir pour l'industrie européenne.
Même avec les gigafactories de batteries qu'on construit dans le nord de la France et tout
jamais
ça.
Vous arriverez à faire aussi bien que les Chinois en matière d'industrie électrique,
François.
Donc il n'y a pas de progrès sur les batteries. Il n'y a pas de progrès. n'y a pas de progrès technologique sur les batteries. Donc, on n'arrivera pas à faire mieux et on n'arrivera pas à faire à moindre coût. Donc, il aurait fallu peut-être, alors évidemment, peut-être l'hydrogène, pourquoi pas, mais sur la voiture électrique, franchement, moi, je ne vois pas.
Ah, c'est dommage parce qu'on va faire plus que ça en Europe. Oui,
on va quand même investir des milliards et des milliards sur les gigafactories.
Vous ne partagez pas ce pessimisme européen ?
Non, pas tant que ça. Effectivement, il y a une grosse avance chinoise actuellement. Ceci dit, sur les batteries de deuxième génération, là, on est sur des systèmes très, très différents. Et la France est plutôt bien placée.
C'est ce que nous disent les acteurs. On est allé dans le Nord il y a quelques semaines et on a rencontré les acteurs des batteries électriques. Ils ne sont pas du tout d'accord avec Emmanuel. Ils disent que la deuxième génération, on peut rattraper notre retard
compétitif. Voilà, le problème, c'est ce gap, ce retard où effectivement les Chinois peuvent s'engouffrer avec des véhicules de technologie plutôt ancienne dans le monde des batteries, mais un volume d'arrivée et des prix qui peuvent être deux fois plus faibles avec du dumping, on le sait.
Donc, Carole, la transformation d'une industrie, vous savez ce que c'est? Vous l'avez transformé, l'industrie, notamment des couches. On peut, avec des marchés disruptifs comme ça, changer complètement les parts de marché des uns et des autres.
Hein. Alors, on peut complètement changer les parts de marché et redistribuer un petit peu la façon dont les achats sont alloués. Mais il y a quand même un sujet. Et je trouve qu'à ce titre, les mesures européennes qui vont être annoncées pour contrer les rats sont hyper intéressantes. On ne peut pas, d'un côté, se plaindre que l'industrie française, c'est dur et qu'on ne va pas être compétitif. Et de l'autre côté, ne rien faire, ça ne marche pas. Donc, il y a évidemment une problématique. C'est que derrière, si on dit, très bien, enlevons, je sais pas moi, toutes les charges patronales jusqu'à 1,5 ou 2 fois le SMIC pour les ouvriers qui travaillent dans l'industrie, les gens vont se dire « Oh mon Dieu, c'est horrible parce que ça va générer donc forcément plus de profits pour les méchantes industries qui font travailler ces gens. » Mais en vrai, ça crée des emplois, ça protège les industries et ça recrée un avantage concurrentiel qu'on perd.
Alors, il n'y a pas du tout ça dans le plan contre l'IRA.
Mais je trouve ça dommage parce que il y a un certain nombre d'abattements fiscaux qu'on peut avoir en fonction de... Alors, il y a des trucs un peu fou. Moi, j'ai réalisé qu'il y a dans le vieil abattement Fillon, qui date de je ne sais plus quelle année, tu dois savoir ça, moi je ne sais plus, 2007, quelque chose comme ça. En fonction du lieu de résidence de certains salariés, vous avez un abattement fiscal plus élevé pour favoriser l'embauche de salariés qui viennent de quartiers défavorisés. Mais en fait, non mais c'est un vieil abattement qui date d'il y a fort longtemps. Des choses comme ça, on peut en faire plein pour justement essayer de dire, redynamisons l'industrie. C'est évidemment, à la fin de la fin, vous avez une entreprise qui va en bénéficier. Mais c'est pas que l'entreprise qui en bénéficie. Et on en parlait avec cette fameuse histoire. Il y a les retraites sur on veut favoriser l'emploi des seniors puisque les gens vont travailler plus. Mais c'est aussi un moyen de favoriser ça. Si on est capable de dire, vous allez payer peut-être moins de charges patronales si vous gardez à l'intérieur de votre équipe des gens.
Ça n'a pas été retenu non plus.
Je sais bien, c'est dommage parce que, en vrai, les incitations fiscales de ce type, c'est ça qui a un vrai impact au quotidien sur l'économie.
Emmanuel, quel changement de paradigme pour l'économie mondiale? Maintenant, on va se battre à coups de subventions d'État, côté américain, peut-être côté européen. Carole le souhaite. Je comprends, d'un point de vue d'un industriel, mais globalement, c'est-à-dire que c'est la fin d'une compétition, d'une globalisation qui tirait quand même les coups vers le bas.
Oui, mais on a vu que finalement cette mondialisation, alors qu'est la mondialisation de la fin de l'histoire ou du monde plat, comme vous voulez, en fonction de la référence que vous avez, Friedman ou Fukuyama, c'était la démission des États, c'était les frontières qui tombent, et c'était effectivement la mondialisation heureuse dont on a vu à la fois les avantages et les inconvénients. Les avantages, ça a été effectivement une baisse des prix sans précédent dont ont profité les consommateurs du monde entier. Mais quand même au profit d'une aux dépens d'une désindustrialisation massive, particulièrement en France et en Europe. Et ce qui est intéressant de voir en plus dans la désindustrialisation française, c'est que ce qui nous a particulièrement pénalisé, c'est pas la disparition des vieilles industries. Si vous regardez en fait la disparition des vieilles industries, elle se fait au même rythme en France qu'ailleurs.
Automobile notamment, par exemple.
Oui, mais ce qui n'a pas fonctionné en France ou moins bien qu'ailleurs, en Allemagne ou en Italie, par exemple, c'est justement les nouvelles industries et l'implantation de nouvelles industries. Donc, il faut aussi tirer les leçons de pourquoi ça n'a pas marché. C'est vrai qu'il y a beaucoup de handicaps réglementaires, fiscaux, etc. Moi, ce que je crains un peu dans le plan européen, c'est qu'en fait, le plan américain, il est hyper simple. Hein. C'est des dizaines de milliards, c'est 370 milliards sur la table. Et là, on voit dans le plan... Moi, je sais pas où vous avez entendu parler de 200 milliards...
C'est la députée elle-même qui nous a dit que c'est le chiffre qui circulait.
Aujourd'hui, dans ce qui est prévu...
Elle souhaite 500 à 1000.
Oui, 500 à 1000, là, ouais. Alors, elle souhaite des choses, effectivement.
Avec un fonds européen de souveraineté.
Oui, mais le fonds européen, pour le moment, sur les sommes, on est quand même dans le flou. Et on est un petit peu toujours sur les mêmes dispositifs. Ah bah, on va alléger, par exemple, les contraintes sur les aides d'État. Mmh. On va faire des incitations fiscales. On va faire ceci, on va faire cela. Mais je suis pas sûr que, pour le coup...
Mais qu'est-ce qu'on fait,
en matière d'efficacité, il faudrait effectivement... Oui, mais là, ça voudrait dire qu'il faudrait repenser, pour le coup, la façon dont fonctionne l'Europe depuis 30 ans. Et c'est pas compliqué. Regardez comment c'est compliqué, déjà, sur le marché de l'énergie. Ouais. Ok, sur le marché de l'énergie, on s'est planté. La façon dont on a designé...
Normalement, on attend les propositions... Voilà. Un changement des règles là, dans l'année. Hein.
On a eu cette vous savez, c'est le côté un peu idiot du village global. L'Europe qui ouvre ses frontières.
Le monsieur pignon de la globalisation.
C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en gros, on a empêché l'émergence de géants européens. On n'a pas permis l'émergence. Parce que la réalité, c'est que vous pouvez donner un peu de marge de manœuvre à chaque pays. Mais la réalité, c'est qu'en matière d'innovation et de recherche, ce qui compte, c'est les milliards que vous mettez sur la table. Voilà. Et quand vous êtes à l'échelle de la Chine, à l'échelle des États-Unis, il faudrait qu'on arrive à faire des choses à l'échelle de l'Europe. Ce qu'on n'arrive pas à faire.
C'est ce que nous a proposé cette députée tout à l'heure. On va vous demander à François Roudier, qu'est-ce que vous attendez-vous concrètement de ce plan anti-IRA ou cette réponse à l'IRA américain? Écoutez ce qu'en disait Luca De Meo, c'est le nouveau président du lobbying des constructeurs automobiles en Europe. Écoutez ce qu'il demandait à la Commission hier.
Dans ce contexte très difficile, la réponse de l'institution européenne est d'une importance primordiale. Nous appelons l'Europe à mettre en place une politique industrielle automobile ambitieuse pour rivaliser avec les autres régions du monde, et cela tout en maintenant et en faisant la promotion du libre-échange à travers le monde.
François Roudier, c'est très attendu par les industriels de l'automobile, évidemment.
Oui, ce qui est important, c'est le mot région. Il faut voir que l'automobile, ça se joue en région.
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui. Région Asie, région Amérique. Amérique, c'est NAFTA. Le Mexique est quand même sérieusement impliqué, et le Canada aussi, dans tout ce qui est en train de se passer là-bas. Le Japon, la Corée, la Chine sont sur l'Asie du Sud-Est. Donc, pour nous, en Europe, c'est sûr que si on veut garder une industrie en Europe, il faut qu'on joue à armes égales. Donc, il faut, et Luca De Meo l'explique bien, qu'on empêche les États-Unis d'attirer tous les talents européens, d'attirer les constructeurs européens, les fabricants de batteries européens à partir là-bas. On a déjà.
Il y a un plan talent d'ailleurs dans la réponse de la Commission européenne. Et si on entend Emmanuel, ça sert à rien en fait. Laissons tomber sur l'industrie automobile puis faisons autre chose.
Non, je crois qu'il faut voir d'abord que nos industriels automobiles, les grands, que ce soit les constructeurs ou les grands équipementiers, sont très mondiaux. Donc réussi à faire une politique mondiale. Donc on voit ce qui se passe. Donc on sait comment fonctionnent les pays. On peut aider, on peut conseiller.
Alors, on va parler de l'assurance chômage, puisque les règles changent à partir d'aujourd'hui, mercredi 1er février. Désormais, il faudra 6 mois de cotisation pour avoir le droit au chômage. Et puis, la durée d'indemnisation va être raccourcie de 25%, par exemple 18 mois, quand vous aviez le droit à 24 mois. Emmanuel Lechypre, est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce qu'effectivement, comme le disent certains économistes, ça va inciter vraiment les chômeurs à retrouver du travail plus vite? Est-ce que c'est la bonne méthode?
C'est en partie la bonne méthode. C'est-à-dire qu'en gros, le problème, c'est que la lutte contre le chômage, c'est pas un outil magique, c'est pas une politique miracle. Il y a une grosse dizaine de causes qui sont toutes des causes différentes au niveau de chômage plus élevé en France qu'ailleurs. Alors effectivement, la générosité de l'assurance chômage et le manque d'incitation peut-être à reprendre un travail pour certaines catégories, en tout cas de salariés, existait. Là, on l'atténue un peu, mais ça aura pas d'impact majeur sur le niveau de chômage en France.
Olivier Dussopt dit que ça va faire gagner 100 à 150 000 offres d'emploi non pourvues. Elles vont être pourvues parce que les chômeurs vont aller travailler.
C'est pas négligeable. Mais sur 5 millions de, de gens qui ne travaillent pas comme ils le voudraient.
Car, juge Léoline, dans les startups, ça ne va pas changer fondamentalement votre problème de recherche de talent.
Alors, non, ça ne va pas changer le problème de la guerre des talents qui est complètement active côté startup. Mais il y a un vrai sujet. Parfois, j'ai un peu le sentiment que quand on parle à Paris de la réforme d'assurance chômage, on a un peu tous dans un coin de notre tête ce copain ou cette pote avec qui on a fait un dîner qui dit « Oui, bon, bah, moi, je vais me servir mon assurance chômage pendant 2 ans pour réfléchir. Ouais. » La vraie réalité, c'est que les gens qui s'en servent, ce ne sont pas majoritairement ceux-là. Donc moi, si demain vous dites, en fait, réformer l'assurance chômage, c'est mettre un cap en disant, très bien, le maximum que vous allez toucher, c'est, je sais pas, 2000 euros par mois. Je dis pas qu'il faut faire 2000 euros, j'en sais rien, c'est un chiffre. Mais je pense que ce qui monte parfois les gens sur le côté de l'assurance chômage, le pays est trop généreux. Le pays n'est pas trop généreux. Ouais. Et d'ailleurs,
les économistes, ils disent que ce qui fonctionne, c'est pas de baisser le montant de l'allocation chômage, mais c'est de baisser la durée.
Alors, baisser la durée, oui, mais parce que ça force des gens qui ont peut-être des travaux, un job pénible ou un job qui leur convient pas, ça leur donne pas forcément le temps d'aller chercher mieux. Mais quand on regarde ça, et il faut quand même être honnête, les lois sont faites ici, à Paris. On est entouré de gens qui vont avoir une certaine flexibilité pour qui finalement ne pas travailler pendant 1 an ou 2 ans. C'est peut-être moins grave que pour des gens qui sont en Auvergne et qui sont au SMIC et qui d'un seul coup ne travaillent pas pendant 2 ans. Donc moi, la chose qui me peine dans cette réforme de l'assurance chômage, c'est pas tant la réduction de la durée d'indemnisation, parce que je suis pas forcément en désaccord avec toi. C'est pas plus mal. 2 ans, c'était long. Aux États-Unis, c'est même pas 6 mois dans les meilleurs cas. Donc c'est pas idiot d'avoir
ça. Les économistes disent que la durée optimale, c'est 11-12 mois.
Ouais, mais le problème, je trouve, là, c'est qu'il y a un discours un peu contradictoire. Les personnes qui vont avoir le plus de difficultés à retrouver un emploi, c'est les seniors. Vous faites virer à 55 ans, ouais. Bon courage.
C'est plus long pour les seniors, c'est 27 mois au lieu de 36.
Ouais, mais c'est quand même beaucoup. Vous perdez d'un seul coup 10 mois, c'est énorme. C'est vrai. Je trouve que cette partie-là de la mesure, on pouvait s'en passer.
Et puis, il y a quand même des choses qu'il faut pas oublier. C'est-à-dire que si vous faites ce genre de réforme, il faut absolument, en contrepartie, mettre le paquet sur les aides aussi pour retrouver un emploi. On prend toujours le Danemark en exemple, mais quand vous regardez la politique de reconversion, de formation, etc. pour les chômeurs au Danemark, c'est quand même assez efficace et assez spectaculaire. Deux, il faut pas oublier que chercher du boulot, ça coûte de l'argent. Et donc là aussi, vous avez des travaux d'économistes qui montrent que finalement, un chômeur bien indemnisé, c'est un chômeur qui retrouve du travail plus facilement. Et puis, sujet auquel doit être sensible Carole, combien de gens ont pu lancer leur entreprise et monter leur entreprise en profitant des allocations chômage? Il y a un tiers,
très peu, ouais.
Il y a un tiers en fait des créations d'entreprises qui ont été possibles parce que les créateurs d'entreprises au début de leur 35%
au début
du lancement de leur business ont pu avoir des revenus grâce à l'assurance chômage. Donc faut pas oublier tout ça. Et je suis d'accord, sur la durée c'était le plus efficace. Il y a quelques gains, mais il y a quand même la précarisation de populations auxquelles il faut prêter attention.
Merci à tous les trois. Ne manquez pas ce soir quand même, hein, la décision de la Réserve fédérale américaine sur les hausses des taux. Est-ce que ce sera 0,25 comme beaucoup l'espèrent? Est-ce que ce sera 0,50 pour taper sur la tête de l'inflation? En direct sur BFM Business à 20h, vous pourrez suivre cette décision.